Il est 16h à Madrid, 21h à Hanoï, vous êtes sur RFI. Et on retrouve le journal d'Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour Marjorie, bonjour à tous. À la une, la Colombie qui nomme son tout premier ambassadeur dans les territoires palestiniens un an après avoir rompu ses relations diplomatiques avec Israël. Il s'appelle Jorge Iván Ospina, son portrait dans un instant. Nous irons aussi en Corée du Sud où, suite à la destitution de Yoon Suk-yeol, le président, et à une semaine de l'élection de son successeur, les candidats plaident pour une réforme du mandat présidentiel. Dans ce journal également, alors que les députés français sont appelés à voter sur la fin de vie, nous nous intéresserons à ses voisins et notamment l'Italie, où le suicide assisté est dépénalisé mais pas formellement autorisé dans la loi. Et puis on terminera ce journal à Paris pour faire un point sur les matchs de la troisième journée de Roland-Garros et notamment l'entrée en lice de Novak Djokovic. L'intensification des opérations militaires d'Israël à Gaza visant des infrastructures civiles et provoquant la mort de civils, y compris des enfants, est odieuse. La colère froide d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne aujourd'hui, et si elle affirme que l'Union européenne continuera à soutenir le droit d'Israël à se défendre, elle ordonne à l'État hébreu de rétablir immédiatement l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. La Colombie, elle, a rompu il y a un an maintenant ses relations diplomatiques avec Israël, qualifié Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, de génocidaire et annoncé la création de la première ambassade de Colombie à Ramallah, en Cisjordanie occupée, mais aucun ambassadeur n'avait été nommé. Bonjour Carlota Morteo.
Bonjour.
Ça y est, Bogota vient d'en nommer un, il s'appelle Jorge Iván Ospina.
Oui, ce médecin de formation a été maire jusqu'en 2023 de Cali, la troisième plus grande ville de Colombie. C'est une figure de la gauche, il est connu de la diaspora palestinienne d'Amérique du Sud, puisque Jorge Iván Ospina s'est positionné régulièrement et publiquement ces dernières années pour défendre la souveraineté du peuple palestinien, dénoncer l'occupation et les violations du droit humanitaire, à l'image du président colombien Gustavo Petro, ex-guérillero dont il est proche et qui qualifiait hier encore le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de « maniaque génocidaire », je cite, dénonçant la complicité des États-Unis et de l'Union européenne. Outre la promotion d'une solution à deux États, le premier ambassadeur colombien en Palestine déclare que l'une de ses priorités sera de gérer l'éventuel transfert d'enfants palestiniens blessés depuis Gaza, la Jordanie ou l'Égypte vers la Colombie. Il plaidera également en faveur de la libération d'un otage israélien d'origine colombienne et ajoute qu'il espère que le Hamas verra dans sa nomination un geste politique de plus de l'engagement de son pays vis-à-vis de la cause palestinienne. La Colombie fait partie des premiers pays à s'être joint à la procédure intentée par l'Afrique du Sud contre Israël à la Cour internationale de justice et a reconnu officiellement la Palestine dès 2018.
Merci Carlota Morteo. La Russie accuse l'Ukraine d'intensifier ses attaques aériennes pour faire échouer leur processus de négociation. Déclaration aujourd'hui, alors que Kiev affirme de son côté avoir été visé par des attaques massives de drones ces derniers jours, dont 335 sur la seule journée d'hier. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lui, a appelé ses alliés à renforcer les sanctions contre Moscou, tandis que le chancelier allemand a semé le doute hier, Friedrich Merz, qui a annoncé qu'il n'y avait désormais plus de limite de portée pour les armes livrées à l'Ukraine par Berlin, Washington, Londres et Paris, ce qui l'autorise de fait à frapper le territoire russe. En Corée du Sud, deux proches de Yoon Suk-yeol, le président déchu après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale, ont interdiction de quitter le pays. Il s'agit d'un ancien ministre et d'un ex-premier ministre qui sont visés par une enquête. C'est ce qu'affirme l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, alors que l'élection présidentielle pour désigner un successeur à Yoon Suk-yeol est prévue dans une semaine. Une question brûle les lèvres des Sud-Coréens. Faut-il raccourcir le mandat du futur chef d'État ? C'est Lio Fioretti, c'est en tout cas ce que proposent les candidats.
Tourmentée depuis la crise politique, la Corée du Sud se questionne sur le rôle du président. Pour regagner la confiance des électeurs, le chef de l'opposition et le candidat du parti présidentiel proposent tous deux de changer le mandat présidentiel de 5 à 4 ans. Toutefois, ce mandat raccourci pourrait être renouvelé, ce qui est impossible actuellement. La constitution coréenne ne prévoit qu'un unique mandat par président. Ces projets de réforme portés par les deux partis sont plutôt bien reçus de la part des électeurs. Près de 60% des Sud-Coréens soutiennent cette réforme, comme en témoigne cette passante.
Oui, je pense que c'est une bonne chose qu'il puisse être réélu. Certaines politiques doivent être menées pendant presque 10 ans pour en voir les effets. Mais le mandat unique empêche cela car chaque président veut défaire ce qu'a fait son prédécesseur. J'aimerais qu'on puisse donner la possibilité de réélire un président s'il a fait un bon travail.
Toutefois, peu importe le candidat qui remportera l'élection, ce projet de réforme ne se fera pas en un claquement de doigts. Réforme constitutionnelle oblige, il faudra l'accord des 2/3 de l'Assemblée pour modifier la Constitution qui n'a pas été touchée depuis 1987. Sylvie Fioretti, Séoul, RFI.
4 personnes, dont un enfant, sont toujours hospitalisées dans un état grave aujourd'hui après qu'une voiture a foncé hier soir dans la foule à Liverpool en Angleterre où les supporters fêtaient la victoire de leur club de foot. Un drame qui a fait une 50aine de blessés au total et qui n'est pas considéré comme terroriste par les autorités. Le conducteur, un Britannique de 53 ans, a été interpellé. En France, le vote est prévu dans 2 heures environ à l'Assemblée. Après 2 semaines de débats, les députés sont invités à s'exprimer et trancher sur 2 propositions de loi, la première sur les soins palliatifs qui fait plutôt consensus, la seconde beaucoup plus délicate sur l'aide à mourir, probablement le suicide assisté très encadré, une pratique interdite en Italie par exemple, mais dépénalisée en clair. Depuis 6 ans, les Italiens majeurs atteints de pathologies incurables provoquant des souffrances intolérables et capables de discernement peuvent en théorie avoir recours. Mais sans une vraie loi nationale, ce droit est très difficilement applicable. Les explications à Rome pour RFI, Dan Lenier.
L'avocate Filomena Gallo, secrétaire de l'association Luca Coscioni, qui lutte pour une fin de vie librement choisie, met en évidence l'immobilisme du Parlement.
Au cours des 40 dernières années, plusieurs propositions de loi ont été déposées. Mais en dépit des changements de gouvernement et de majorité, il n'y a jamais eu une réelle volonté politique. En outre, il ne fait aucun doute que la présence du Vatican dans notre pays a une grande influence. Vouloir détenir le contrôle de nos corps, de nos libertés, cela représente un signal d'alarme pour notre démocratie.
Ce signal d'alarme semble encore plus fort avec le gouvernement Meloni qui conteste la première loi régionale adoptée par la Toscane en février et fixant à 35 jours le délai maximum pour obtenir le feu vert des autorités sanitaires à une demande d'aide au suicide, alors que dans la plupart des régions, ce délai atteint 2 à 3 ans. Au fond, seul le législateur pourrait trouver un point d'équilibre. Filomena Gallo ne perd pas espoir.
Je me dois d'être optimiste, car les citoyens ont démontré qu'ils souhaitent une loi pour pouvoir décider de leur propre vie.
Selon les plus récents sondages, 80% des Italiens se déclarent en faveur du droit au suicide médicalement assisté. Anne Lenir, Rome, RFI.
Allez, on prend la direction de la Porte d'Auteuil à Paris. On vous rejoint, Babacar Diarra, bonjour.
Bonjour Alban.
En direct de Roland-Garros pour la 3e journée. Novak Djokovic fait en ce moment ses premiers pas dans le tournoi face à Mackenzie McDonald après une saison compliquée. Difficile pour l'instant de jauger sa forme, Babacar, mais Djokovic vient de remporter le premier set. Quelles sont les premières impressions pour l'instant ?
Ouais, l'impression, on va dire qu'elle est, elle est mitigée. Alors, il a remporté effectivement ce premier set 6-3 avec un break dans la deuxième partie, on va dire, de cette première manche. Mais dans les attitudes, on ne peut pas dire que c'est du grand Djokovic encore. Il a besoin encore de récupérer cette confiance après ses désillusions lors des Masters 1000 de Monte Carlo et de Madrid avec des éliminations au premier tour. Il y a eu aussi ces dialogues avec l'arbitre un peu plus tôt dans cette rencontre parce qu'il y a eu une bruine qui s'est abattu sur le court Philippe Châtrier et Djokovic a réclamé l'interruption de cette rencontre pour la fermeture du toit, sauf qu'il ne peut pas décider, l'ancien numéro 1 mondial, de stopper la rencontre en raison des conditions météo. Pour le moment, il mène 6-3 dans la première manche et 1-0. Il vient juste de breaker en début de seconde manche. Et puis le toit qu'il voulait fermer a été clos il y a quelques instants. Donc les conditions sont certainement parfaites pour qu'il puisse monter en pression.
Merci beaucoup, Babacar Diarra, en direct du cours Philippe Châtrier à Roland-Garros pour RFI. Et puis, toujours en sport, mais cette fois-ci en cyclisme, coup de tonnerre, parti favori au début du Giro avant d'être victime de 3 chutes sur le Tour d'Italie. Le Slovène Primoz Roglic a abandonné aujourd'hui lors de la 16e étape après être tombé pour la 4e fois. Il est 16h09 à Paris, 14h09 en temps universel. Tout de suite, vous retrouvez Caroline Lachowski avec Autour de la question. Très belle fin de journée à vous à l'écoute des RFI.